voix nue. Cette semaine, Émilie Chaudet rencontre Yolande Moreau. Ce soir, l'artiste de service.
Bonsoir Yolande Moreau.
Bonsoir.
Vous êtes comédienne depuis 1982, réalisatrice depuis 2005. Le grand public a surtout connu votre visage à travers Les Deschiens, série de sketchs créée par Jérôme Deschamps et Macha Makeyev et diffusée à la télévision pendant toutes les années 90 sur Canal+, en clair. Un visage souvent mélancolique, habité par une certaine folie. Vous pouviez parfois passer un sketch entier sans prendre la parole, mais ce visage-là, il parlait à votre place. Il y a eu Les Deschiens, mais il y a eu tellement d'autres histoires et d'autres personnages dans vos vies de théâtre et de cinéma. Vous avez joué dans environ 80 films. On peut citer la Louise, tueuse de patron dans Louise Michel de Gustave Kervern et Benoît Delépine, la lumineuse et illuminée Séraphine en 2008 de Martin Provost, l'amoureuse solitaire Irène dans votre premier long métrage Quand la mer monte, co-réalisé avec Gilles Porte en 2004 et qui a remporté le César du meilleur premier film. On peut d'ailleurs préciser aussi que vous avez remporté deux Césars de la meilleure actrice, entre autres récompenses, avec Quand la mer monte et Séraphine. Vous avez la gentillesse, Yolande Moreau, de nous recevoir pendant toute cette semaine chez vous, dans votre maison normande, pas très loin de Giverny. Alors, décrivons un petit peu ce lieu qui vous ressemble, dites-vous souvent dans diverses interviews. Des murs vert clair, un ton doux, des toiles peintes, souvent des portraits de femmes. À gauche, on a une grande cheminée, il y a une bibliothèque où se côtoient Marguerite Duras, Milan Kundera, Laurent Godet, Emmanuel Carrère et des livres sur les arbres. Et puis derrière moi, il y a une fenêtre par laquelle on voit votre jardin, des rosiers dont vous m'avez dit qu'ils s'appelaient ceux qu'on voit directement avec les boutons orangés, cuisses de nymphes.
Cuisses de nymphes émues.
Des vignes. Il y a un peu plus loin votre potager. Vous m'aviez dit avoir semé des fèves la semaine dernière et récolté des framboises. Ce jardin, vous en parlez souvent, cette passion de la culture de votre jardin, vous en parlez très souvent de manière passionnée. D'où elle vous vient, cette passion du jardin de votre enfance?
Oui, je pense que c'est vraiment ma mère qui nous a donné. On est quatre filles d'ailleurs, à toutes les quatre. On aime bien les jardins, la nature. Mes sœurs aussi, j'ai deux de mes sœurs qui ont immigré à la campagne aussi parce que l'envie de vert. Oui, je pense que c'est vraiment ma mère qui nous a donné ça. Puis j'en ai toujours eu, même quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu un peu de potager, puis des fleurs, même. À 20 ans, je crois que je m'étais risquée à me lancer dans un élevage de lapins que j'ai vite abandonné. Parce que c'était quand même un peu bordélique et les lapins sauvaient, dévoraient les légumes du voisin. Il leur faut des cages aux lapins, hein. Il leur faut des cages, être nourri deux fois par jour. C'était pas, finalement pas mon truc.
À quoi ils ressemblaient les jardins de votre enfance?
Alors, c'était surtout des jardins de fleurs. Moi, j'aime bien les jardins un peu de curé, j'aime bien les jardins un peu sauvages, mais ça s'entretient vachement, en fait, les jardins sauvages. Puis, je me suis mise, depuis quelques années, ce qui me passionne, c'est la permaculture. Enfin, je veux dire, c'est un bien grand mot, et je l'utilise avec précaution. C'est-à-dire, c'est une autre manière, disons plutôt ça, que je m'intéresse à une autre manière de voir pousser les légumes. Au départ, c'était un intérêt pour un livre qui s'appelait « Jardiner sans retourner la terre, sans eau, sans... » Et sans quoi encore ?« Sans retourner la terre, sans eau... »
En laissant les insectes travailler.
Favoriser les vers de terre, en recouvrant la terre, et puis surtout pas... Et du coup, c'est ce que je disais, c'est un peu comme le cinéma. Une fois qu'on met son nez là-dedans, on voit l'étendue des choses qu'on ne connaît pas. C'est sans fin.
Et qu'est-ce qu'elle vous a appris, votre mère, alors, en ce qui concerne le jardin et pas le cinéma?
Ma mère, c'est plutôt la passion de ce jardin qui a été communiquée. Des fleurs aussi, comme ma mère, comme en Belgique, on dit une chipote. Je suis une chipote. Alors, elle aimait bien la couture, j'aime bien la couture aussi. Ou j'aime bien chipoter, faire des trucs avec mes mains, je suis une manuelle.
Yolande Moreau, vous êtes née en 1953. Vous avez grandi en Belgique, à Bruxelles. Enfin, vous êtes née à Bruxelles. Après, est-ce que vous avez grandi à Bruxelles? Ça, je ne sais pas.
Oui.
Oui, aussi.
C'est dans la banlieue bruxelloise, donc où mes parents avaient un petit jardin, petit, mais fleuri.
Votre père était négociant en bois. Mmh. Votre mère s'occupait de vous et de vos trois sœurs. Vous étiez la deuxième. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos parents, de ce qu'ils semblaient quand vous étiez petite attendre de vous, de ce qu'ils vous disaient, des valeurs qu'ils vous ont transmises?
Comme vous dites, j'étais la deuxième. Il y a eu une quatrième beaucoup plus tard, de quatre filles. Je pense que petite, j'aimais beaucoup, moi, très attachée à la famille. On avait... Mon père avec une petite deux chevaux, on partait en vacances en deux chevaux, par exemple jusqu'en Italie, avec à trois derrière, avec la tente immense derrière. On chantait dans la voiture. Tout ça, c'est des choses vraiment qui m'ont marquée. Et mes parents avaient un groupe d'amis qui s'appelait Les Gays, qui a été fondé après la guerre, en opposition un peu au climat morose qu'il y avait. Et on allait camper chaque semaine avec les gays. On a tous des tentes, des caravanes. C'était selon. Nous, on était très tentes, l'immense canadienne. Et donc, les enfants jouaient ensemble. C'était pas très loin de Bruxelles. Et les parents jouaient au volet. Et ils faisaient des soirées aussi, des soirées avec des chansons à texte et des trucs comme ça. Parce que c'est important pour moi, parce que je pense que j'étais marquée par ça, par, entre autres, la personnalité d'un monsieur qui s'appelait Le Grand Georges, avec sa guitare. Je crois que même Barbara est venue faire un tour dans leur soirée, à ses tout débuts. J'ai vu tout ça. Je pense que ça m'a nourrie. Et d'ailleurs, Le Grand Georges, un jour... moi, j'étais une assez mauvaise élève. Et il m'a offert un livre, j'avais 8 ans. Et je pense que ça m'a marqué...
Hein? Maria Chapdelaine.
Oh, dis donc, vous êtes bien renseignée. Exactement, de Louis Aymon. Et je pense que ça m'a marqué dans le sens où ça me grandissait, qu'on m'ait offert un livre.
Les livres n'étaient pas très présents chez vos parents, sinon?
Non, pas tellement. Bande dessinée, surtout pas. Mais je pense que j'ai pas la culture de la bande dessinée, contrairement à mon mari. On devait lire on pouvait lire la Bibliothèque verte et rose parce qu'il y avait pas d'image, justement. J'aurais voulu pour nous une bonne éducation. Je pense que ma mère était frustrée, je crois, un petit peu de pas avoir fait d'études. Mon père aussi, il était au départ comptable, et je crois qu'il voulait pour nous, on était à l'école catholique et tout ça. Plus tard, moi, j'ai eu des brancards, moi, je voulais aller à Athénée, je voulais connaître des garçons. Et oui, j'ai pas aimé l'école. Enfin, je saute des chapitres. Mais ma mère, elle aurait voulu qu'on fasse des études, et puis à ce moment-là, avait le journal des chic filles, je pense qu'elle aurait bien voulu qu'on fasse du tennis et des choses comme ça, mais ça n'a pas marché, ça. Qu'on soit un peu, je sais pas, elle rêvait pour nous de choses, de qu'on soit prof, par exemple. Et ma sœur aînée, ma sœur après aussi, elles ont toutes les deux fait des études. Voilà, on n'a pas vraiment toujours correspondu à les enfants font ce qu'ils veulent. je reviens au gay. Avec le grand Georges, ou justement un qui est mort il n'y a pas longtemps, qui jouait de la guitare. Tout ça était important pour moi, m'a attiré énormément. Je pense que c'est important après, j'ai retrouvé ça plus tard. Mais à l'adolescence, comme je vous dis, j'étais assez mauvaise élève, et du coup, parce que je me suis rappelé ça, pourquoi on devient artiste, pourquoi comédienne, réalisatrice. Et dans ce sens-là, je pense qu'au début... Quand je parle du livre de Louis Aymon, ça m'a flatté d'avoir un livre, et que mes parents nous divisaient un peu en catégories. C'est d'une manière bienveillante de leur part, bien sûr. Ma sœur aînée était l'intellectuelle, moi, qui n'en était pas une. J'étais l'artiste. Et du coup, être artiste, on est aussi artiste pour correspondre quelque part à l'image que les parents entendent de vous. La troisième était sportive. Et la quatrième est venue bien plus tard. Mais je pense que j'ai voulu correspondre à leur image aussi. Et puis c'était confortable. C'était pour moi, être artiste, c'était un échappatoire, quelque part aussi.
Yolande Moreau, est-ce que vos parents étaient politisés ?
Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Même, je pense qu'on ne voulait pas trop la même. Mais je me rends compte que, en vieillissant, peut-être que maman, qui vit toujours, était quand même assez, parfois, révoltée. Parfois, les sentiments d'injustice, elle-même, pour des choses. Et quand on a toutes les quatre un peu hérité de ça, finalement, petits-enfants aussi, quoi.
Vous dites, Yolande Moreau, que vous avez grandi dans une famille matriarcale, donc une mère, trois sœurs, avec une éducation assez stricte, religieuse. Vous alliez à l'école aux Dames de Marie, si je dis bien. Pas le droit de sortir, pas le droit de fréquenter des garçons. Donc l'art, c'était une forme d'échappatoire, effectivement. À quoi ressemblait votre chambre d'enfant, d'adolescente qui cessait justement à des activités artistiques ?
D'adolescence, je peux en parler, parce que comment je pouvais pas sortir, comme vous dites. J'ai dévoré les bouquins, ça s'appelait les Bordas à l'école. Je sais pas s'il y avait la même chose en France. On appelait la littérature française. Et puis, j'ai suivi des cours de déclamation. Et donc, je me suis plongée dans les poèmes à l'époque. Et donc, je lisais. Je vous dis, j'aurais préféré sortir, mais... Et j'ai fait beaucoup de peinture aussi, à l'intérieur. Et j'allais en cours, mais par exemple, j'avais pas du tout le matériel scolaire qu'il fallait. Donc souvent à l'école, je demandais pour avoir des... qu'on me passe une feuille. Et un bic, d'ailleurs, s'il fallait faire semblant de noter. Tous les cours étaient sur la même feuille, dans tous les sens. C'est-à-dire, j'aurais dû garder ça, parce que c'est presque... C'est des feuilles qui... C'est pour... juste pour faire semblant de marquer quelque chose. Et à la maison, je crois que j'avais le désir profond de choquer mes parents. J'avais, je me baladais dans des potoirs qui étaient juste en face. Je faisais des bijoux avec ça. Je choquais du coq à l'âne, mais je ramassais de la ferraille pour faire de la soudure. Et j'avais donc un grillage que je pouvais compresser, je sais pas quelle matière. Je me dis, c'est pas du zinc. Et donc derrière, il y avait mes feuilles de cours. Quand ça peut être trop de volume, je le réduisais. Je réduisais le grillage. Et ça me faisait une sculpture de cours, mais je crois que c'était beaucoup. Je crois que j'ai choqué mes parents.
Ils vous le disaient, vos parents, que vous les choquiez ? Vous le voyez ?
Sans doute qu'ils étaient choqués. Puis il y a des fois où j'avais raison de rien dire, parce que je me suis révoltée. J'étais dormir dans la baignoire. Mais j'ai très très mal dormi. C'était dur.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 17 ans, 16 ans, 17 ans, je sais pas.
Alors avant cela, à 12 ans, vous avez eu une sorte de crise mystique. Vous vous êtes mise à croire en Dieu de manière très intense. Vous lisiez la Bible à la récréation. Vous vouliez devenir bonne sœur. Mmh. Est-ce que vous pouvez me parler de cette période-là ?
Mais de nouveau, moi j'essaie de faire le lien avec toutes ces périodes, parce que ça m'a pris quelques années. Et j'étais à l'école catholique. Et je pense que, toujours pour en revenir à mon choix plus tard, d'être comédienne, ou je pense que j'avais une difficulté avec les autres, que si je lisais la Bible à la récréation, c'est peut-être que je devais être difficile à trouver ma place. C'est sûr qu'en voyant ça avec du recul, et qu'être sur une scène, c'est de dire aimez-moi. Après, on dépasse tout ça parce que il y a le travail, mais l'origine de tout ça, c'est bien tout ça. J'étais grenouille de bénité, j'allais d'homme de Marie. Et donc le matin, il y avait la messe qui était suivie par le vieux curé et qui était suivie par quelques nonnettes de l'école. Et moi, j'ai servi la messe. Et c'est comme ça que j'ai goûté au vin de messe, le vin blanc, dans les burettes. C'est peut-être de là que ça date.
Je vois votre sourire que ça vous a plu.
Ah oui, c'est un peu du vin sucré. prenez et buvez, ceci est mon sang, bah le sang, je ne vous cache pas. J'ai goûté, c'est délicieux.
Et pour autant, vous n'y êtes pas revenu longtemps parce que cette période mystique vous est vite passée.
Elle est sortie à l'adolescence, vers 14 ans. Parce que, et d'une manière, moi j'aime bien raconter la transition, mais elle est vraiment là parce qu'elle s'est faite assez vite. Parce que, avec la sexualité, je me suis mise à être amoureuse de Dieu. Puis je me suis dit, pourquoi pas être amoureuse d'un curé? Et puis, il y en avait un qui habitait près de chez moi, que je voyais, qui j'ai fait ma communion. Il ressemblait à un gros bébé rose, il sointait un peu. Donc, il n'est pas vraiment alléchant. Et je me dis, pourquoi pas? Toujours, j'explique le cheminement de l'époque, je m'en rappelle bien. Je me dis, pourquoi pas avoir une relation avec un beau prêtre espagnol, par exemple, qui aurait des traits émaciés, un peu basanés. Voilà. Et puis, on vivrait, bien sûr, toujours comme missionnaire, tout ça, dans le respect, mais tu vois, il y a la notion de couple qui intervient. Puis je me suis dit, c'est quand même un peu ennuyeux de ne pas pouvoir. Et très vite, c'est passé. Et l'été de mes 14 ans, je m'en rappelle très bien, j'avais une copine, Martine Howard, qui habitait près du Poséidon, et la patinoire aussi. Et là, je dis à mes parents, j'allais la voir, et j'ai connu les premières, des premiers garçons. Et j'ai connu, à ce moment-là, Dick Nagarn. Je le savais pas. C'est bien plus tard que je me suis rendu compte que c'était lui.
Donc le chanteur belge.
Oui. Qui a le même âge que moi.
Et à cette époque, donc, vous avez échangé, vous avez fait connaissance? Ou pas du tout?
De loin en loin. Vous savez, j'étais archi timide quand même, mais j'ai eu mon premier flirt. Voilà. Et alors là, ça a changé très très vite. J'ai écouté les Beatles, j'ai porté des chaussures oranges. Je reviens à ces détails parce qu'ils sont très clairs dans ma tête, et une mini-jupe. Et 68 arrivait, tout ça fait une grosse boule très vite.
Donc dans votre vie, il y a eu, d'un point de vue artistique si on peut dire, il y a eu la musique, beaucoup, il y a eu la déclamation, la poésie. À quel moment le théâtre et peut-être un désir de cinéma est-il intervenu dans votre début de vocation artistique, Yolande Moreau?
Mais la déclamation, justement, ça je pouvais faire, il y avait les textes, qui sont revenus d'ailleurs parce que je faisais des textes de Jacques Prévert que j'ai repris dans le spectacle. Et donc, parce qu'ils évoquaient pour moi quelque chose aussi.
Donc un spectacle que vous avez produit
avec Christian Olivier,
il y a déjà un an, oui.
Et il y avait ces textes que je choisissais, il y avait beaucoup Rimbaud, et tout ça, Baudelaire, Les Fleurs du Mal, j'avais dévoré ça. Maurice Materlin, que je me rappelle, plein de poètes, qui venaient de Bordas. Hein. J'avais des envies, je pense, j'avais fait... avec une fille qui était aux Dames de Marie aussi, un spectacle sur ses poèmes. Ça, je me rappelle, oh, le flot de l'âme, grâce immaculée. C'est assez hermétique comme poésie et tout ça, mais on avait fait un spectacle au théâtre poème. Puis il y avait, notamment dans les années 68, des choses de théâtre expérimental et tout ça. À ce moment-là, je me suis fort dirigée vers ça. Mais là, j'avais 17-18 ans, un spectacle. Et après, moi, j'ai été très vite, j'ai eu ma fille à 19 ans. J'ai eu ma fille à 19 ans, donc très tôt, et j'ai très vite arrêté cette pièce-là, mais j'ai voulu reprendre par le biais du théâtre pour enfants.
Oui, on va y venir demain soir, mais avant cela, vous disiez, Yolande Moreau, que adolescente, vous vouliez faire quelque chose d'artistique pour ne pas mourir. Est-ce que vous pouvez expliquer
oui.
cette phrase?
Je pense que très vite, je voyais mon futur en faisant, je savais pas trop quoi, parce que j'étais déjà attirée aussi par le retour, le grand retour à la nature, qui avait donc avoir une ferme. Je me disais aussi avoir des enfants et en avoir une dizaine. Je me suis arrêtée à deux, mais vivre à la nature, c'est-à-dire ça correspond. Il y a des choses que je règle maintenant qui sont des envies d'adolescence, mais le fait, je comprends très bien ce que je voulais dire, pour ne pas avoir la chance de pouvoir faire le métier qu'on fait, exprimer. On peut exprimer Et le mal de vivre, et en même temps c'est une chance extraordinaire, je veux dire, de faire ça.
Et vos parents, vos sœurs, même si on vous avait catalogué comme étant l'artiste dans la famille, comment est-ce qu'ils ont réagi? Comment est-ce qu'ils ont considéré votre désir très sérieux à un moment de faire du théâtre, ou en tout cas de devenir vraiment une artiste?
Je pense que c'est vu avec bienveillance tant que on ne dit pas qu'on voulait faire ça. Après, comme je vous dis, moi, j'ai quitté la maison, j'étais enceinte. Et j'ai ma fille à 19 ans. Et donc, effectivement, là, tout à coup, j'ai fait face à d'autres réalités. D'autant plus, j'étais très vite seule avec mes deux enfants. Et donc, face à des réalités de la vie, c'est là où j'ai fait plein de petits boulots. Mmh. Ça devait les faire paniquer. Après, je pense que mes parents étaient très fiers. Et mes sœurs également.
Donc plutôt de la bienveillance de la part de votre famille, pas tellement une inquiétude du fait que votre famille, n'étant pas des plus riches, vous ait dit « Oh là là, nous on ne pourra pas te suivre dans cette vocation ». C'était pas du tout le discours qu'on vous tenait à la maison.
Comme je dis, j'ai eu peur, mais moi aussi, j'ai un peu rompu pendant une petite période. Je suis partie et c'était assez violent. Je suis partie, j'ai suivi. J'ai suivi un homme plus âgé que moi, qui avait été marin, d'ailleurs. Voilà, après, je crois que c'est des années... Je suis retournée après. J'ai toujours, en fait, travaillé. J'ai fait plein de petits boulots, mais à partir d'un... Je crois que je devais avoir 27, 28 ans quand j'ai recommencé le théâtre pour enfants. Et là, à partir de ce moment-là, j'en ai toujours vécu.
À l'adolescence, lorsque vous commenciez vos cours de théâtre et vos cours de déclamation, est-ce qu'il y avait dans votre tête une image d'une actrice, d'un acteur, une image de cinéma qui trottait dans votre tête? Non.
En plus, au cinéma, j'étais très peu. Je peux compter sur les fois. J'ai vu Macadam Cowboy quand j'avais 17 ans. Et j'ai vu Les Sans Rien d'Albatien. Sinon, j'ai vu très peu de choses. Et je suis toujours pas très cinéphile, en fait. Quand on a la campagne, je découvre des films. Des fois, ils sont sortis depuis 5 ans. Voilà, c'est dommage, mais on peut pas tout avoir. Voilà, moi, je suis à la campagne. Je peux pas faire la route jusqu'à Paris pour aller au cinéma le soir. Mais j'aime bien ça. De temps en temps, on va au festival de La Rochelle, par exemple, avec mon mari. Et on se fait une overdose de cinéma. On y va 3-4 fois par jour, j'adore ça.
Est-ce qu'à posteriori, vous vous êtes dit que ça vous avait peut-être désinhibé, un peu libéré, justement, de ne pas avoir d'objectif en tête par rapport à une carrière cinématographique ou théâtrale, de ne pas avoir de modèle à qui il fallait absolument ressembler?
En faisant ce métier, il y a de plus en plus de gens auxquels on s'identifie. D'ailleurs, il y a plein de familles ou des réalisateurs avec qui on a envie de travailler, d'autres moins, les choses se précisent quand même. Là, de nouveau, je parle, quand j'avais 20 ans, je savais pas, je me dis, mais prends ta place quelque part. Je savais pas prendre la place. Et la place, que ce soit au théâtre, pendant des années, même encore maintenant, parfois, mais c'est plus facile quand même, je me sens illégitime. Il y a beaucoup d'acteurs qui disent ça. Je me sens illégitime parce que, par exemple, je voudrais réaliser, mais enfin.
Vous l'avez fait?
Je l'ai fait.
Et avec succès?
Ah oui, mais je suis sûre de rien, là. Et au théâtre, au début, quand je me suis lancée, avec mon spectacle à moi, au début d'ailleurs, c'était des impros. Mais des fois, j'étais sur scène, je me disais, t'es folle de faire ça, c'est pas pour toi. Alors c'est assez curieux aussi, c'est contradictoire, mais je pense qu'il y a beaucoup de comédiens pour qui c'est semblable d'ailleurs. C'est assez curieux. Et j'avais fait notamment ces cours de clown qui ont eu beaucoup d'importance pour moi, avec Philippe Gaulier.
On va y venir demain soir,
oui. Ah oui.
En détail, oui.
Mais je parle de lui parce que je me rappelle une fille qui voulait être clown, qui était très mal dans sa peau, et quand elle disait bonjour, tout le monde riait. Tous les jours, elle pleurait, cette fille. Parce qu'elle, c'est difficile, puis je me suis dit, mais même en travaillant chez Deschamps, Des fois, je voyais quelqu'un qui passe avec un instrument de musique et qui s'assied, qui dit rien, qui est pas comédien. Je me dis, c'est ça que j'ai envie de faire. En même temps, je me dis, mais j'ai envie de parler, j'ai envie de, ah, tu vois. Mais au théâtre, ce que j'aime bien aussi, c'est des fois, ouais, c'est embrouillé, nouveau, le vide, ou je voudrais arriver à exprimer ça.
À qui vous, est-ce que vous vous confiez adolescente? Est-ce que vous aviez des confidents? Est-ce que vos sœurs en étaient? Est-ce que...
J'avais des amis. J'avais des bonnes amies à l'école. Oui. On était un bon petit groupe quand même, jusqu'à la fin, avec des gens que je vois toujours maintenant.
Donc il n'y a pas eu que la Bible à la récré?
Ah, mais ça c'est plus tard. La Bible c'était avant. Après, il y a eu... les copines, la rébellion, on a un peu rué dans les brancards, Dame de Marie. On n'a pas fait que des choses... on devait pas être des gentils. Hein.
Mm. C'était quoi vos sales coups?
Oh. Mais des fois, j'en suis pas fière, parce que... On était un peu dans la rébellion. Je me rappelle une fois avoir... on était excités, on a dépiauté une classe, et on s'est pas fait emballer, quoi, mais... je me rappelle aussi que dans une classe de filles, et on avait décidé, l'abbé qui venait nous donner cours de religion, on avait décidé de regarder son cours rien que en regardant son sexe. Il a disparu de l'école, il n'est plus jamais revenu. C'est très violent quand même. C'est très violent ce qu'on a fait.
Vous avez quel regard aujourd'hui sur ces actions enfantines, adolescentes?
Je pense que, en tout cas pour moi, je pense que j'étais mal dans ma peau, sûrement, mais que j'étais contente d'avoir des copines. Plus je pouvais me faire remarquer et exister par rapport à elles, ça me faisait du bien, ça. Mais le fond de ça était un peu triste, probablement.
Vous avez beaucoup évoqué, Yolande Moreau, vos débuts dans la vie, et on va y venir en détail demain soir. Merci beaucoup pour
Merci
aujourd'hui.
À vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Émilie Chaudet avec Yolande Moreau. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son François Rivalan, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.